Transcodeur Podcast, épisode 34. Interview sur Flex avec François Ledroff et Michael Chaise. Enregistré le 21 janvier 2011.
Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 34 et c'est une interview sur Flex, donc la technologie de Adobe. Vous dites Adobe ou Adobe alors quand vous parlez avec des Français?
On dit Adobe ou Adobe, on dit pas Adobe en fait.
Adobe, oui c'est ça. Donc je suis avec François Ledroff et Michael Chaise, tous les deux d'Adobe. Et puis on va discuter un petit peu de la technologie, en quoi c'est intéressant pour les gens qui font du Java ou voire même pas forcément du Java. Voilà. Est-ce que vous pouvez... Ah non, attends, je vais démarrer par mon disclosure. Alors, j'ai une relation amour-haine avec Flash, c'est pas privé. Donc c'est vrai que j'utilise Click to Flash, qui me permet de pas avoir Flash démarré sur mon navigateur, sur les pages par défaut, et il faut que je clique pour l'activer. En tout cas, historiquement, c'était vachement utile parce que Flash sous Mac avec Safari, ça se passait plutôt pas bien. Il y avait beaucoup de consommation de CPU, etc., etc. Alors depuis, j'ai une nouvelle machine et il y a eu des nouvelles versions. Alors, il faudrait que je regarde, mais c'est vrai que je continue à utiliser Click to Flash, qui a aussi l'avantage de bloquer les pubs, ce qui est pas mal. Voilà. Mais bon, après, cela dit, je suis pote avec des gens d'Adobe, donc notamment aussi James Ward, etc. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était la disclosure. Et sinon, messieurs, introduisez-vous, expliquez-nous ce que vous faites et puis un peu votre parcours en informatique, voire en Java ou autour, etc. etc.
D'accord, je vais commencer.
Ouais.
Donc bonjour à tous, moi c'est François Ledroff, j'ai 36 ans. Donc je suis ingénieur logiciel chez Adobe depuis maintenant 3 ans environ. Uh-huh. Et donc pour moi, Retour à la RIA, c'est un peu le retour, mes premiers amours en informatique, j'ai commencé en...
Alors RIA, c'est Rich Internet Application.
C'est ça,
on va en parler après.
À l'époque, en 99, quand j'ai débuté, on faisait en fait des applis distribués avec des clients en applet.
Ouais.
Et on n'appelait pas ça RIA, mais c'était un peu le même concept quand même. Donc j'ai débuté chez Schlumberger comme ça pendant quelques années. Et ensuite, j'ai évolué un peu plus vers le Java. Et plutôt dans la plomberie back-end et notamment chez Atos dans le centre de compétences open source avec des collègues à toi de chez JBoss, beaucoup travaillé avec JBoss pendant quelques années. Et donc pour revenir ensuite aux applications distribuées et aussi donc aux interfaces riches chez Adobe depuis 3 ans, j'ai commencé comme consultant et pendant un an et demi, et maintenant je réalise en fait des applications en interne pour Adobe, avec le techno Adobe, qui sont donc des applications utiles aux employés, mais aussi utiles aux avant-ventes, parce qu'elles permettent de faire des showcases et de montrer un peu ce qu'on peut faire avec nos technologies.
D'accord.
Et moi, je suis Michael Chaise, donc j'ai un parcours d'ingénieur en informatique. J'ai fait mes études à IPITA, à Paris. Mmh. Et ensuite, j'avais... fondé une société, on était éditeur de logiciels, et j'ai rejoint Adobe en 2006 en tant qu'avant-vente pour justement faire la promotion auprès des grands comptes de la technologie Flex. Et depuis un an, je travaille dans la même équipe que James Ward en tant qu'évangéliste des applications Internet riches en Europe.
D'accord. Oui, alors que James, c'est l'Amérique du Nord, je pense. Ou un truc.
Et voilà, James couvre l'Amérique.
Alors expliquez-nous, Flex, qu'est-ce que c'est et puis c'est quoi son rapport avec Flash? Juste un survol rapide, puisqu'après on va zoomer un peu dans les détails.
Bien sûr, donc en quelques mots, Flex c'est avant tout une boîte à outils, donc un toolkit, on dit souvent en anglais, pour construire nos applications Internet riches qui tournent sur la plateforme Flash. Donc ces applications, après, elles peuvent être des applications entières avec une expérience complètement faite par Flex, ou alors des petits composants Flex, des widgets qui tournent dans un environnement HTML, dans un portail, dans Facebook, ce genre de choses.
D'accord. Et son rapport avec Flash, ouais.
Le rapport avec Flash, en fait, donc Flash est une techno qui a déjà plus de 15 ans, qui était créée à l'origine pour juste faire de l'animation vectorielle, qui a évolué pour ensuite faire des jeux, puis... accueillir de la vidéo, mais en fait, il y a 5-6 ans, c'est la communauté qui s'est demandé s'ils ne pouvaient pas utiliser Flash pour lancer des expériences applicatives, donc comme un logiciel. Alors c'est vrai que du coup, on ne s'adressait plus du tout à cette même cible d'animateurs interactifs, mais là du coup, on s'adressait à des développeurs d'entreprises habitués à des langages comme Java. Et c'est pour ça qu'on a créé Flex, qui est une façon de faire des applications qui vont s'exécuter dans Flash, mais la façon de les développer s'adresse clairement à un développeur qui connaît tout ce qui est langage orienté objet et qui est habitué à un environnement comme Eclipse.
D'accord. Cool. Ouais, c'est vrai que bah, Flash, pardon, historiquement, les gens l'ont pas mal connu avec les petits jeux, les machins comme ça, les animations, comme ça, des internets des années, ben, je sais pas, 95-2005-ish, et puis de plus en plus de sites, enfin, en tout cas, un certain nombre se sont mis à avoir des sites, enfin, entièrement en Flash. Je crois que Nike, je sais plus si c'est encore comme ça, mais c'était un des showcases où ils préféraient, enfin, ils se focalisaient sur l'animation et sur un contenu beaucoup plus riche et plus sympathique une fois qu'on est dans la boîte du navigateur.
C'est vrai que Flash, enfin, a toujours apporté l'innovation sur le web pour casser l'expérience un peu statique du ouais. HTML avec juste du texte et des images. Et c'est vrai que des grandes marques comme Nike voulaient faire des expériences ultra engageantes sur Internet pour créer un relationnel en fait juste entre l'internaute et la marque. Et des configurateurs comme par exemple Nike ID, ça permet de créer sa propre chaussure, etc. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, Flash, hein, ça reste leader sur le jeu. Hein. Il y a 75% des jeux en ligne, ça reste du Flash. Et aussi sur la vidéo, hein, ça reste quand même aussi un gros ouais. vecteur. Avec, pareil, c'est de l'ordre de 70-75% des vidéos sont lues avec un lecteur Flash.
C'est quoi le reste, vous savez ou pas?
Le reste, donc en effet, il y a toutes ces expériences, ce qu'on appelle un peu les mini-sites ou les sites vitrines, où là, on a énormément de web agencies qui travaillent avec Flash pour faire des expériences totalement immersives pour une marque.
Ouais.
Et après, je dirais que quand même la dernière grosse tendance, ça reste tout ce qui est application et c'est souvent réalisé avec le framework Flex.
Ouais. Et en fait, c'est quoi? Ça remplace les anciens clients riches qui étaient en VB, voire en Power Builder, etc. C'est ça ou...
Ça, c'est une des tendances, en effet, surtout dans le monde de l'entreprise,
ouais.
pour les applications internes. C'est comment est-ce que je fais migrer tout mon passif client-serveur ou client lourd vers un modèle de client léger dans le navigateur. Et, bon, c'est exactement l'intérêt de la RIA.
D'accord. Ok, donc on va zoomer un peu sur l'environnement, savoir un peu ben, comment ça se positionne, etc. Et puis, comme il y a eu pas mal de débats sur Flex versus d'autres technos, on va aussi essayer de faire le point. Alors évidemment, c'est pas forcément, comment on appelle ça, impartial. Mais de toute façon, il n'y a pas eu de débat impartial dans ces débats-là, donc c'est pas grave. alors... Open source, pas open source, il y a eu un mouvement de ces quelques dernières années d'open sourcing de ces technologies-là par Adobe. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus?
Bien sûr, moi, je peux le faire si tu veux éventuellement, Emmanuel. Mm-hmm. Moi, j'ai rejoint Adobe il y a 3 ans et de mes motivations pour rejoindre Adobe, c'était justement son ouverture et son développement dans l'open source, que je travaillais donc beaucoup avec les gars de chez toi, chez JBoss, et j'étais passionné d'open source dans ouais. Java. Et donc Flex, bah Flex, ce toolkit, cette boîte à outils, elle est sous licence Mozilla. Donc ça permet donc de réaliser ton application donc qui va être ensuite jouée par le lecteur, le player Flash ou le Adobe Runtime sur le desktop de façon complètement gratuite avec un ensemble d'outils donc qui sont sous licence libre. Et donc tu as aussi tout un écosystème autour de ça. Qui lui-même est libre. Donc on a un ensemble de formats qui permettent de communiquer entre Flash Player et les différents backends, qui ont été également ouverts par Adobe. Donc on a, Michael pourra peut-être en parler un peu plus, on a le format AMF, le format RTMP, etc. Donc qui ont été aussi des formats qui ont été ouverts et publiés par Adobe sur le site. Et tout un écosystème qui ressemble beaucoup à l'écosystème Java, mm-hmm. Qui est très, très vivant, très, très bouillonnant. On a un ensemble de frameworks d'IOC, d'un version de contrôle, de MVC, de contrôle de qualité de code. qui sont les pendants de Spring, de Struts, de PMD. Donc chez nous, ça pourrait s'appeler Parallels, Kangorn, Flex PMD.
D'accord.
Et donc tout ça, ça ressemble beaucoup, en fait.
À la limite, ces outils-là, tu m'enverras les liens par email, comme ça les gens intéressés,
Bien sûr.
les auront dans le show notes. C'est pas mal ça.
C'est vrai que ce flex, c'est vraiment arrivé en. C'était de façon quand même. On va dire que c'est fait pas à pas. Hein, parce qu'au début, Flex 2, Adobe avait décidé de le rendre gratuit. Donc là, on est en 2006. Et c'est Flex 3, en fait, en 2007, qui était donc gratuit et open source.
C'est là que je rentre chez
Et c'est là que tu arrives, hein, évidemment.
Adobe.
Et ensuite, Flex 4, il est vraiment, je dirais que c'est la première version qui est née du travail commun entre Adobe et la communauté. Parce que la
D'accord.
communauté a énormément influencé Flex 4. Et dans le même temps, on a ouvert d'autres choses. Hein. Donc, dans le Flash Player, par exemple, on avait totalement réécrit la machine virtuelle. Donc, c'est devenu un projet open source qui s'appelle Tamarin, qui est aussi avec la fondation Mozilla. On a ouvert le format d'échange binaire d'échange d'objets, le protocole pour faire du temps réel qui s'appelle RTMP, le format vidéo, FLV, et même le format flash en fait est publié. Donc
D'accord.
certains se sont même amusés dans la communauté à redévelopper un flash player en fait.
D'accord. Quand tu dis vous avez ouvert les protocoles, ça se passe comment? Vous avez mis les specs sur votre site et donc pour une version donnée, n'importe qui a un droit d'implémenter cette version-là, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord.
RTMP, par exemple, c'est ce qui, à l'origine, permettait de faire du streaming de vidéo.
Ouais.
On peut aussi streamer de la donnée maintenant avec RTMP, mais c'est un protocole en fait, qui fonctionne basé sur les sockets entre le client Flash Player et le serveur. Du coup, il y a des solutions dans le monde open source comme Red 5 qui permettent de streamer de la vidéo. Voilà. C'est
D'accord.
grâce à cette ouverture qu'il y a aussi un écosystème, je dirais, d'éditeurs de logiciels hein, qui sont créés sur la plateforme Flash. On n'est pas les seuls à proposer des solutions.
Ouais. Alors, tout n'est pas open source chez vous. Vous avez des produits qui sont des produits propriétaires qui permettent, par exemple, d'interagir entre le monde Java et le monde Flex, si je me souviens bien. On en avait déjà un petit peu discuté avec les gens de Granite DS que vous devez
Oui,
connaître ou en tout
ouais,
cas de
très bien.
croiser. Et du coup, on avait un petit peu discuté là-dessus, mais on pourra y revenir
Bien sûr.
pour faire un point. Cool. Et donc, bon, on en a déjà un petit peu discuté, mais donc l'utilisation en or pour Flex, voilà, on a déjà vu un peu les catégories où ça marchait. Qu'est-ce qui fait que ça brille tel, enfin, qu'est-ce qui fait que c'est tellement mieux qu'une autre techno, que le HTML de base, etc., etc.
Je pense que c'est vrai que une appli Flex qui brille, c'est parce qu'il y a Flash qui brille en fait. Donc faut bien comprendre que vu que ça s'exécute dans le Flash Player, on a tout de suite un moteur graphique qui est très évolué. On peut faire des animations, des transitions, gérer du rich media avec de la vidéo, du son, de la 3D. En fait, c'est plus un mouvement où on s'est aperçu que si on améliore l'expérience et l'interface, du coup, on a une meilleure adoption de la part des utilisateurs, et c'est ça qui fait le succès d'une application. C'est plus ça, cette tendance en fait. C'est plus le fait de se dire que c'est pas tellement, c'est pas que ma base de données qui est importante, c'est pas que la façon dont j'expose les services qui est stratégique, c'est aussi le fait d'avoir une expérience la plus efficace possible pour l'utilisateur. Donc, du coup, au niveau des usages, un des premiers domaines qui s'est jeté dessus, je dirais, c'est le e-commerce, bien sûr, parce qu'eux, ils avaient un retour direct. Hein, s'ils facilitent l'expérience d'achat, du coup, il y a plus d'achats. Hein. Donc, un super exemple, si vous voulez voir une super appli Flex, c'est le site de Volkswagen en Angleterre, qui est 100% une appli Flex et qui est vraiment génial pour configurer une voiture, comparer les voitures et acheter sa voiture. Sinon, il y a tout ce qui est Rich Media, donc les grandes chaînes télé, notamment avec ce mouvement de la Catch-up TV, donc le fait de revoir des programmes qui sont déjà passés.
Ouais, les trucs à la M6 Replay ou
Exactement, M6
etc.
Replay, voilà, c'est du flash. Le player de Canal+, aussi, pour
Ouais.
revoir les guignols, etc. C'est une belle appli Flex. En Angleterre, il y a le e-player de BBC, qui est la plus grande chaîne de télé mondiale.
Ça vaut le coup de se mettre un petit proxy là, pour regarder ce genre d'application. C'est vraiment très très bien fait.
Ah,
Ouais, parce que le e-player BBC, on peut le voir que si on a une adresse
anglaise,
au
ouais,
UK. Ouais,
un
en
IP, un
anglais.
IP UK, ouais. Et c'est un énorme succès. Je crois que quand ils l'ont lancé, en fait, 14% de la bande passante de l'Angleterre, en fait, était prise par le e-player de BBC. Donc c'est
D'accord.
très très gros succès.
Netflix, c'est Flash derrière aussi, enfin le protocole de.
Netflix, pour lire la vidéo, non,
Ouais.
je crois que c'est notre concurrent, c'est Silverlight
Ah d'accord,
pour
pardon.
Netflix. Ouais,
Ah
c'est un
bon,
des,
carrément.
c'est un des rares cas où, où c'est Silverlight. Il y a d'autres cas, hein. En France, par exemple, France Télévisions, c'est du Silverlight. Ouais, c'est un mélange, non? J'ai
Alors ça
l'impression.
mélange,
Enfin,
ouais,
ça
parce
dépend
que,
des
bon,
chaînes.
ouais. Parce que la grande
Énorme, c'est le bordel en
différence,
fait.
ouais. Bah, la grande différence en fait pour de Flash pour lire de la vidéo hein, par rapport à Silverlight, c'est juste le taux de pénétration du player. Hein. Là où Flash est présent, les dernières stats, ça frôle les 99% pour la dernière version, qui est la version 10. Silverlight stagne plus entre 60 et 70%. Donc c'est vrai que pour ces grandes chaînes-là, ils se coupent quand même d'une partie du public.
Ouais. De toute
Après,
façon, il se coupe de moi aussi, alors.
ouais, voilà. Et puis, sinon, il y a le digital publishing. Il y a des expériences intéressantes comme le Times Reader, donc une façon de consommer C'est une l'information.
application que je montre systématiquement moi, quand je vais dans les différents jeux présenter
Ouais.
Flex et son copain Java. TimesReader, c'est une application rien, que tu installes sur ton desktop, qui est un très bon utilisage du moteur de rendu de texte de Flash. Et tous les gens qui sont passionnés de rendu de texte, de ligature, ce genre de choses, enfin, ils
D'accord.
seront impressionnés par le rendu de cette application-là.
Mais c'est difficile quand même parce qu'il y a tellement de, j'allais dire richness, mais il y a tellement de richesse en fait dans ce que tu peux faire avec Flash ou Flex qu'il y en a beaucoup qui en abusent en fait. Ça devient plus de la forme que le fond, alors que ça devrait accompagner le fond pour optimiser.
Tout à fait. Bah, TimesReader est un bon exemple. Là, il n'y a rien de bling-bling ni de clignotant dans
Ouais,
ce qu'ils ont fait
clignotant.
avec Flash et Flex, hein, ici, dans cette application-là. C'est vraiment une application qui est pensée pour le lecteur.
D'accord.
Et une belle appli aussi, c'est pour tout ce qui est e-learning. Alors là, Flex a un énorme succès. Il y en a une très connue hein, dans le monde Java, qui est Parlaize, hein,
Oui.
par Stéphane. Donc, il y a un bel exemple aussi de ce qu'on peut faire. J'aime bien le fait qu'il synchronise les slides avec la vidéo.
Qu'on puisse laisser des commentaires. Il y a
Ouais.
toute une interactivité avec l'utilisateur qui est très, très sympa.
Ouais. Alors pour
Et,
ceux qui connaissent pas, parlez.com,
tout à fait.
parlez.com, c'est ils diffusent en fait beaucoup des conférences en Europe et ailleurs et en grosse partie des Vox. Et donc vous voyez les slides, vous voyez le bonhomme qui raconte aussi. Et puis après vous choisissez est-ce que je veux voir plutôt le bonhomme ou plutôt les slides en grand, petit, même taille, etc.,
Vous
etc.
pouvez vous laisser vos commentaires, vos notes
Ouais.
positionnées sur les slides au moment même où vous êtes intéressé, où vous trouvez intéressant de rebondir.
Ouais.
Sauter un chapitre directement en cliquant sur la timeline.
Ouais.
C'est vraiment une belle appli.
Et le
Et
ParryJug, donc aussi.
ParryJug, ils publient ouais,
Voilà.
leur
Ouais.
jug. Et c'est pas le seul, donc pas mal de jugs en France qui publient
Non, il y a
là-dessus, qui
beaucoup
ont
de jugs,
leur.
ouais. Ouais, exactement.
Mais ça, je dirais, enfin, tout ce qu'on cite, en fait, c'est un peu. Et c'est ça qui est difficile à comprendre avec Flex. C'est juste la phase visible de l'iceberg. Parce que 80 ou 85% des projets qu'on rencontre, c'est pour des refontes d'applications métiers en interne.
Ouais.
Avec ce que tu évoquais, donc de la migration d'appli client-serveur, de la refonte d'écran connecté à des back-ends un peu comme douloureux au niveau de la UI comme SAP ou Cybelle, où il faut vraiment qu'ils améliorent l'expérience. François a travaillé cette année sur un projet de ce type-là.
Ouais, donc
D'accord.
ouais. L'année dernière, en fait, j'étais l'archi d'un gros projet en interne
Pour Adobe, ouais.
pour Adobe. Donc, on avait en fait pour mission de regarder un petit peu comment travailler nos centres d'appel,
Ouais.
avec quels outils travailler. Donc, on est parti avec une petite équipe réduite. Hein, on était deux, trois, et notamment une personne clé dans tout notre projet qui est l'architecte de l'information, l'ergonome, le designer. Enfin, il a plusieurs casquettes. Et donc, mon collègue est parti sur place dans les différents centres d'appel, interviewer les différents agents, allant même jusqu'à les filmer pour voir un peu comment ils travaillaient, quels outils ils utilisaient.
Ouais.
Moi, pendant ce temps, j'étais plus là pour regarder un petit peu quelles étaient les différentes sources de données qu'ils utilisaient, l'environnement IT avec lequel ils s'intégraient. Et puis, donc, on est revenu un peu vers nos sponsors et puis on leur a proposé une interface riche
pour augmenter leur productivité, augmenter la satisfaction des clients qui appellent ces centres d'appel-là pour avoir du support ou pour acheter du produit. Et donc, on est revenu avec un projet qui a duré un an, qui a demandé pas mal d'efforts et qui aujourd'hui est très payant. Donc, on a une interface Flex rendue dans le navigateur à travers le Flash Player qui permet donc d'avoir une intégration avec un back-end assez riche de données, un back-end composé de gros serveurs SAP CRM, d'intégration téléphonique, gestion de catalogue, marketing et produits, de chat, de collaboration entre les agents. Et donc ça permet donc d'avoir un gros retour sur investissement. Donc autant on a beaucoup travaillé en équipe sur ce projet pendant un an, autant le retour est là, 20% de productivité en plus pour les agents, la satisfaction client qui a beaucoup augmenté, le training des agents aussi qui était un peu compliqué, notamment pour tout ce qui est interface SAP, qui prenait jusqu'à 2 semaines, a été réduit à 4 heures, et ces agents même qui étaient formés difficilement pendant pas mal de temps avaient tendance à partir assez rapidement. Il y avait un turnover qui était entre 3 et 6 mois, je crois, qui était catastrophique d'un point de vue RH, et qui a été plus ou moins effacé par l'arrivée de ce produit-là.
D'accord. Et justement, donc tu disais que partie intégrante de vos équipes, il y a un mec qui est designer, ergonome, test utilisateur, etc., etc. Est-ce que tu peux nous dire, pour voir si ça fait peur aux gens, parce qu'en général, il n'y a pas cette personne-là dans les équipes. C'est le mec qui est le moins mauvais, qui fait plus ou moins les trucs. Et bon, ça peut être catastrophique. C'est combien du coût du projet d'avoir un gars comme ça dans l'équipe? Tu vois, si c'est 2%, il faudrait que les gens réfléchissent en disant, bah ouais, peut-être qu'il faudrait mettre quelqu'un comme ça pour...
Je pense que le coût n'est pas si important. Par contre, la compétence, cette capacité à comprendre l'utilisateur n'est pas si courante. Dans notre équipe, on était jusqu'à 30 développeurs à un moment, au plus haut moment des développements. On a commencé petit, puis on a grossi au fur et à mesure. Et on avait 2 designers, 3 designers dans l'équipe. Par contre, la personne, au début, est clé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer le projet avant d'avoir cette grande phase de découverte. Ouais. Des besoins de clients. Et là, en fait, il n'y a presque pas besoin d'un petit gars comme moi, d'un geek dans l'équipe. Il faut plus quelqu'un qui soit architecte de l'information, qui comprenne les besoins des utilisateurs, hein, avant même qu'ils les expriment, en fait, qu'ils comprennent un peu leur métier, pour pouvoir penser mieux les outils qui pourront les aider à être plus productifs.
Parce que ça, et c'était assez marrant sur ton projet, et je pense que c'est vraiment clé, c'est que très souvent dans les services informatiques, il va y avoir l'équipe en charge de l'application SAP CRM par exemple, et l'autre équipe en charge de l'application catalogue de produits. Mais si on ne va pas à la rencontre de l'utilisateur et si on ne se rend pas compte qu'en fait il n'arrête pas de passer d'un écran à l'autre entre l'application de CRM et l'appli catalogue, et qui est dans une expérience totalement inefficace.
Avec un notepad tout le temps ouvert au cas où ça crache.
Tant qu'on ne le voit pas, en fait, jamais on se dit bon, bah, il faut développer une nouvelle interface, quoi. Et ça, pour moi, c'est plus ça l'enjeu de la RIA aujourd'hui. C'est pas tellement un enjeu technologique, parce que je pense que les technos sont mûrs, qu'on prenne Flex ou Silverlight. Bon, au niveau technologique, on est vraiment sur quelque chose de mûr qu'on peut facilement industrialiser. Par contre, là où je me rends compte, le vrai défi aujourd'hui pour les services informatiques, c'est de faire rentrer justement cette personne dont tu parles, c'est de faire rentrer ce consultant. En expérience utilisateur, dès le début du projet, qu'on prenne bien le temps de comprendre quelle est la meilleure interface,
quels sont les processus,
qu'on la fasse bien valider par l'utilisateur, et qu'après on démarre les développements. Alors que si en effet on reste dans un mode où on se dit bon, celui qui a un petit peu d'affinité avec le design, bon, au fur et à mesure il nous corrigera un petit peu nos écrans, c'est là où on arrive en fait à une expérience à la fin qui est inefficace, qui n'est pas adoptée par l'utilisateur et qui échoue en fait.
Ouais. Donc vous parliez de RIA un petit peu là, et puis Michael, il a même une signature de ses emails qui s'appelle RIA Gora, qui fait probablement 3 fois la taille de 90% de ses emails.
Voilà. alors. Mais qui en a ski art par contre,
elle est pas en flèche. Qui en a ski art. Et le, c'est clair. Et le RIA, du coup, comment est-ce que vous le qualifiez? Est-ce que HTML5, c'est du RIA pour vous? Est-ce que des applications, je ne sais pas si vous connaissez Evernote, donc une application native qui va appeler un service back-end derrière, c'est du RIA. Donc, c'est quoi votre définition à vous?
Alors c'est vrai que c'est une définition qui a un peu bougé. Pour moi, de toute façon, RIA, c'est plus une application où on sent qu'on a pris en compte l'utilisateur et qu'il y a une vraie approche, une vraie réflexion sur l'interface, le design, et qu'ensuite, souvent quand même, on associe la RIA à un client léger, je dirais. Même si c'est en train de bouger, en effet, avec le monde du mobile, parce que même avec Flex, en fait, où on essaye quand même, quel que soit l'écran, d'avoir toujours un peu la même expérience, la même façon, je sais pas, de prendre des notes, par exemple dans Evernote, ils vont faire attention à ce que, je sais pas, la façon de passer du menu caméra au menu notes soit un peu la même expérience. Bon, il y a cette réflexion-là. Après.
Ouais, pour moi, c'est un peu ça aussi. Moi, j'ai avec ma définition, chacun a sa sensibilité, ma définition, elle est aussi sur l'approche, sur la richesse de l'application, dans le sens où j'ai moins de clics qu'ailleurs, j'ai moins d'aller-retour client-serveur, je garde un état sur mon client, je peux travailler sur le web comme je travaille en local, en fait.
Ouais, tu peux être déconnecté momentanément, resynchroniser, enfin, faut penser à tout, vraiment au contexte de l'utilisateur, en fait. Alors, est-ce que HTML5, on peut le considérer comme une techno de RIA? Oui, clairement, parce que ça va permettre aussi d'amener une couche de réflexion sur le design.
Donc, oui,
Là, on embarque un peu tout, hein. Dans HTML5, c'est
voilà, donc on.
CSS3, les trucs. Bon,
Ouais,
exactement.
enfin, c'est le
Là, on
voilà,
embarque un peu
JavaScript qui va
tout.
bien.
Mais c'est là qu'on se rend compte que c'est pas tellement une compétence technologique qu'il faut, hein. C'est que tant qu'on n'inclut pas cette personne qui va s'intéresser au design, etc., ça va être compliqué. Le workflow entre designer et développeur, tout ça, c'est ultra, ultra stratégique. Bon. Après, ouais, on a toujours eu cette compétence, hein, chez Adobe. Enfin, évidemment, le design, pour nous,
C'est
c'est
l'histoire, quoi.
dans l'ADN, hein. Donc, et HTML5, clairement, pour Adobe, c'est une super opportunité, hein. Donc, on s'est
Alors,
engagé pour
justement,
dire.
comment est-ce que vous voyez HTML5? Parce que c'est vrai qu'il y a eu donc ces vieux débats, ces débats houleux plutôt entre Apple qui dit non, on mettra pas de Flash sur nos plateformes iOS. Le futur c'est HTML5, etc. Ensuite des gens qui disaient oui, avec le tag vidéo on n'a plus besoin de flash, blablabla. Et puis il y a eu finalement un peu des retours des gens qui disent ah ben non, finalement le tag vidéo si on n'a pas un standard derrière finalement on va pas s'en sortir beaucoup, etc. etc. Donc c'est quoi votre point de vue à vous au niveau de sur HTML5 et puis sur la vidéo sur le web? Voilà, et puis les iOS et autres bidules comme ça.
Alors, déjà, c'est vrai que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce débat qui a voulu dire que HTML5 est contre Flash ou va tuer Flash, etc., bon, il n'a pas été jamais porté par Adobe, hein, donc, parce que nous, depuis le premier jour, ce n'est pas du tout notre vision, d'autant qu'on est un des premiers contributeurs, donc ce serait quand même dommage. Ça fait 15 ans que HTML et Flash vivent ensemble, donc on commence quand même à. Enfin, on a tendance à penser que ça va continuer comme ça. Après, c'est vrai que ça peut amener de la confusion parce que HTML5, du coup, il a une zone de regroupement avec ce que fait Flash depuis des années, ne serait-ce qu'animer des choses à l'écran, hein, voilà, où il y a cette promesse de jouer de la vidéo. Bon. Je comprends tout à fait qu'il y ait eu un peu ce doute, le fait qu'on se dise, bon, HTML5 va remplacer Flash. Bon. Après, on ne parle pas du tout du même langage, hein. HTML5, ça reste quand même du JavaScript. Donc, on pourra parler après du langage de Flex et ActionScript 3. On n'est pas du tout quand même sur le même niveau dès qu'on souhaite industrialiser des développements et faire des très grosses applications. On s'adresse plus quand même à un public de web designer évolué. Et c'est un public qu'on adresse depuis toujours avec des logiciels comme Dreamweaver, par exemple, qui est leader sur ce marché. Donc, on va clairement mettre à jour notre gamme d'outils pour supporter HTML5. Ça a déjà démarré. Et on s'est même engagé, en fait, à sortir un outil en fait n'existe pas encore sur le marché, qui va être un pont entre les designers qui font des éléments dans Photoshop Illustrator et qui souhaitent animer ces éléments en HTML, en HTML5. Donc ça va être un outil qui, avec une ligne des temps, va permettre de prendre des éléments HTML, les animer, faire des rotations, des effets, etc.
Donc là, en fait, il faut penser à tu sais, un peu comme on peut. Je sais pas si tu connais, Emmanuel, le Flash Authoring Tool. Moi,
Non.
c'est quelque chose que
Flash
je
Pro.
connaissais. C'est quelque chose que je connaissais pas, en fait. C'est tu programmes de l'animation aussi, comme ça, un peu vectoriel. Mais Mickaël va pouvoir me corriger. Moi, je suis pas un flasheur. Il l'est. Mais donc, pour quelqu'un qui connaît pas comme moi, un petit gars qui vient du monde Java, c'est assez étonnant. Donc, tu programmes en fait des animations à travers une ligne de temps comme ça. Et dans cet outil, tu fais tout d'un point de vue graphique et tu peux éventuellement l'augmenter avec du code. Et
D'accord.
donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi pour l'HTML5, c'est-à-dire que tu vas pouvoir animer ton site, faire des chorégraphies, ce genre de choses.
Ouais, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur Flex et le mobile en fait? Donc évidemment, il y a eu le fameux débat iOS, etc. Donc c'est pas demain la veille, a priori, qu'on aura Flex sur l'iPhone. Par contre, sur les autres téléphones, ça marche. Et c'est vrai que vous avez pas mal travaillé sur des versions mobiles optimisées. Donc un, quelle plateforme vous supportez? Deux, est-ce que vous avez amélioré votre VM pour ça? Et trois, est-ce que vous avez des interfaces utilisateurs que vous avez fait spécifiquement pour les mobiles?
Ouais, alors déjà pour les mobiles, la VM, on l'a améliorée, mais pas tout seul. On l'a améliorée directement avec les constructeurs de mobiles et ceux qui éditent les OS. Donc si tu prends les 20 leaders dans l'industrie du mobile, en gros, il y a 19 qui ont travaillé avec nous, voilà, si on simplifie. Donc il en manque juste un, en effet, c'est Apple qui n'a pas souhaité travailler avec nous. Mais du coup, on a fourni à ses partenaires un accès open source au Flash Player pour qu'ils puissent optimiser. Donc du coup, c'est prêt sur Android, déjà depuis plus de 6 mois. Donc on peut faire tourner son appli Flex sur Android. Prochain environnement où ça va être marrant, c'est le BlackBerry Playbook qui va arriver très bientôt. C'est la tablette BlackBerry, qui est alors là totalement basée sur Flex. Il y a webOS qui est prêt, donc qui était fait par Palm, qui a été racheté par Apple.
Alors
Par
par
HP,
HP,
pardon.
ouais.
Voilà. Et pour Apple, en fait, donc on ne pourra pas avoir Flash dans le navigateur de l'iPhone et l'iPad. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Par contre, on est en train de travailler sur un packager avec du cross-scripting qui va pouvoir prendre son application Flex et la transformer en application native qu'on va pouvoir déployer sur l'Apple Store. Donc ça, c'est une techno qui existe déjà pour Android, hein. Donc aujourd'hui, on peut faire une appli Flex et la transformer en APK, donc pour la déployer sur l'Android Marketplace. Ce sera pareil pour le BlackBerry, pour qu'on mette ces applis sur le... Eux, ça s'appelle le App World. Et pour iOS, on peut déjà le faire aujourd'hui, mais c'est plus pour des développements purement Flash, des jeux ou des expériences vidéo.
D'accord.
Mais pour les applis Flex, on s'est engagé à le sortir en 2011. Donc je ne peux pas encore communiquer de date, mais on la
D'accord.
communiquera très bientôt.
D'accord.
Et en effet, on a revu Flex, alors c'est en bêta, mais ça sera disponible au printemps, pour faire des applications mobiles. En fait, le système qu'on a pris, c'est qu'on a développé juste une skin pour les applis mobiles. Donc si par exemple, je cale cette skin sur une liste, ça va devenir une liste avec... du smooth scrolling, donc ça va scroller voilà, avec de l'accélération et décélération, et je peux le faire avec le doigt, donc ça va gérer tout ce qui est événement touch, etc.
D'accord. Oui, donc vous avez rajouté les événements touch.
Voilà, on a rajouté les événements touch, multi-touch, on a rajouté la gestion de l'accéléromètre, le GPS pour la géolocalisation, qu'est-ce que on a rajouté? Le fait de pouvoir gérer le fait qu'on soit déconnecté, reconnecté avec une base de données en local.
Ouais.
Bon, voilà. De quoi vraiment faire une appli, enfin ça devrait couvrir la grande majorité des besoins d'appli mobile.
D'accord. Et juste au niveau des batteries, justement, les VM, vous avez, enfin, c'est ce que vous avez fait avec les constructeurs, ça avait travaillé
Ouais,
sur
c'est
minimiser
plus
les cycles de
de.
CPU, etc.
Ouais, c'est ça en fait, c'est le Flash Player 10.1, c'est plus de 2 ans d'ingénierie que d'optimisation. Consommation mémoire, consommation CPU.
T'as leur rêve des ingénieurs.
Ouais, c'était, ils étaient, ouais. Ils avaient des grosses cernes
Ouais.
après ces 2 ans-là. Mais ils
Cool.
sont repartis avec de l'innovation, donc là ils vont mieux. Là, on va sortir un moteur 3D dans Flash cette année. Pour la vidéo, il y aura plus ces problèmes que tu exprimais sur Mac parce qu'on a codé un accès direct au GPU. Donc,
D'accord. Oui, il y a justement Arnaud qui demandait est-ce que les technologies d'Adobe feront du green en évitant à mon MacBook Pro de réchauffer la planète?
ouais.
Donc ça, c'était la réponse, c'est
Bonne
ça.
question.
C'est
Ouais.
Arnaud Héritier?
Ouais.
Bah, Maven aussi, c'est pas très green, hein. Ça déforme un peu la Terre entière au démarrage.
Ah, c'est clair. C'est clair. Un partout,
Ça,
paf.
la vidéo, c'est dans les semaines qui arrivent, hein.
D'accord. Bon, on va zoomer pour les développeurs. Donc, côté serveur, c'est un podcast Java. Donc, c'est quoi les ponts avec Java?
Ouais.
Et puis, c'est que très rapidement, est-ce que vous avez des gens qui travaillent avec d'autres backends que Java,
Tout à
.NET ou
fait.
PHP,
Bah,
etc.?
je peux commencer avec le monde Java
Ouais.
et Mickaël pourra parler un peu des autres. Donc, pour les backends, quelle que soit la techno, là, pour commencer, il y a les services HTTP que tu peux appeler depuis le code ActionScript 3, enfin, le code Flex, vers les différents backends, hein, sur le cloud ou sur ton serveur. Donc, tu peux faire du HTTP, du REST ou du SOAP. Tu peux aussi générer du code depuis des WSDL si jamais tu veux faire ce genre de choses. Ça, c'est le premier back-end classique et très, très facile pour commencer. Après, si tu commences à avoir des applications un peu plus riches, des données plus conséquentes, plus volumineuses, plus structurées, tu peux là du coup sérialiser des objets fortement typés qui passent sur le tuyau, qui vont être désérialisés par le Flash Player. Et donc, pour ce faire, on a le protocole, enfin pas le protocole, le format de compression AMF qui passe sur HTTP
D'accord.
et qui va être utilisé par la partie du Flash Player et du SDK Flex qui s'appelle Remoting. Et donc, cette spec étant ouverte, tu peux développer ta partie back-end également. Donc, en
D'accord.
Java,
Donc en fait, il faut que tu
elle
écrives un
existe.
serializer qui convertisse dans le flux AMF en fait. Enfin en tout cas dans
Voilà.
les bytes
Voilà, donc
AMF.
et Adobe propose une solution open source qui s'appelle BlazeDS pour faire ce genre de choses.
Ouais.
Donc, qui est composé d'un ensemble de jars que tu mets dans ton application J2E, WAR ou EAR, hein, tu choisis. Et une fois qu'elles sont posées là, ces librairies elles permettent de faire cette sérialisation, désérialisation et ces appels remoting entre le client et le serveur.
D'accord.
Tu peux aller plus loin. Tu peux aussi mettre en place des publisher subscriber et donc faire du messaging et pousser des données du serveur vers le client et tu peux relier tout ça et avec ta plomberie de messaging également Java, JMS par exemple peut être le back-end des messages envoyés de client à client ou de serveur vers le client ou d'un client qui envoie ça au serveur qui réplique la donnée dans les autres clients qui tournent sur ce même back-end.
D'accord.
Donc ça, c'est la partie open source BlazeDS. Après, si tu veux aller plus loin, toujours dans le monde Java, Adobe propose donc la solution qui s'appelle Lifecycle Data Service, qui là est donc conçue pour le monde entreprise avec des grosses volumétries, la possibilité de scaler beaucoup plus efficacement à travers un moteur non pas basé sur la servlette comme peut l'être Blaze, mais un moteur NIO. Donc un peu à la WebSocket, et également un ensemble de connecteurs qui permettent de faire de la gestion de données, et donc du CRUD, hein, application classique de gestion, de façon beaucoup plus automatisée et automatisable, notamment à travers des assembleurs qui se connectent bah, sur ton Hibernate, par exemple, et d'automatiser la gestion de conflits, le paging, le push de données qui ont été modifiées par l'utilisateur A sur l'écran de l'utilisateur B. Ce genre de choses.
Et donc celui-là, c'est celui qui est en concurrence un peu avec Granit DS, c'est
Ouais,
ça?
c'est ça. C'est
Voilà.
celui-là qui. Alors, vraiment, Lifecycle Data Service, ça s'adresse aux grands comptes. Tu vois, c'est en référence, par exemple, type Crédit Agricole, Banque Populaire, Orange, Sanofi. Enfin, ça s'adresse
D'accord.
vraiment au CAC 40 qui souhaite aussi avoir du support entreprise pour des applications stratégiques développées en Flex.
D'accord.
Sur ces backends aussi, on a des partenariats qui ont été montés, notamment avec Spring Source, hein, si on reste dans le monde Java. Donc on a une intégration très très fine qui est faite entre les messages brokers BlazeDS et LCDS et des backends faits avec le microcontainer Spring.
Donc LCDS, c'est Life Cycle Data Service.
Tout à fait, c'est ça.
Et sinon, dans d'autres back-ends, alors vu que le format AMF a été publié, si on prend Zend dans le monde PHP, par défaut, il y a Zend AMF directement dans le noyau qui fait la sérialisation entre le monde PHP et le monde Flash. Il en existe aussi pour .NET, c'est fait par un partenaire qui s'appelle WebOrb. La communauté en a fait pour Ruby, pour Python. Enfin, on trouve c'est vraiment un mécanisme standard, je dirais, pour une application Flask.
D'accord. Et le Lifecycle Data Service, est-ce que c'est spécifique à Java ou il y a aussi, par exemple, un lien entre Link de .NET
Alors,
et
aujourd'hui, c'est
Flex?
spécifique à Java,
Ouais.
mais on va le mettre à jour prochainement pour que
D'accord.
ça soit Java et .NET. Ce
D'accord.
sera dans les mois qui arrivent.
D'accord. Et sinon, au niveau du développeur de base, comme un collègue à moi avait dit une fois, concrètement, comment est-ce qu'on développe du Flex? Donc voilà, j'ai mon IDE classique, j'ai Eclipse, j'ai mon langage classique Java. Est-ce qu'il me faut un autre IDE? Est-ce que ça sera dans le même projet Eclipse? Et comment je fais les allers-retours entre le code Java et le code Flex? Comment je compile, etc., etc.
D'accord, bah on peut reprendre à la base du Flex SDK, donc le toolkit, hein, qui vient donc avec son compilo et son debugger, et qui vient également avec trois langages, deux langages de base. Donc l'ActionScript 3, qui est la base du Flash, et le MXML, qui est donc un langage XML de description d'interface, et le CSS que tout le monde connaît quand on a fait un peu d'HTML. Donc ces trois langages constituent le langage de base pour réaliser une application que tu vas compiler ensuite avec le compilo du Flex SDK. Tu vas obtenir ce qu'on appelle un SWF, un SWIFT, qui pourra être joué par le Flash Player sur le navigateur. Ce Flash Player va donc pouvoir l'exposer et le faire servir par ton serveur éventuellement Java J2E. Et c'est donc ce SWIFT qui va communiquer donc avec le backend Java. Donc tu peux développer ça avec VI, Emacs et compiler ça à la ligne de commande, si tu aimes bien.
Ouais.
Ou alors tu peux utiliser ton IDE favori. Voilà, donc au niveau des environnements de développement, alors Adobe en propose un qui est payant. C'est environ 500 € par développeur.
C'est
Il est
gratuit pour les étudiants,
gratuit
ça?
pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Et il s'appelle Flash Builder. C'est un plugin Eclipse. Très apprécié de nos clients qui ont déjà, je dirais, des usines de production de Java, parce qu'ils passent d'une perspective Java à une perspective Flex qui gère l'interface, et ils peuvent mettre des points d'arrêt dans le code Flex ou dans le code Java, et l'expérience de debug pour ça est très bonne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment s'arrêter sur l'interface, sur le back-end, voilà, ça gérera les deux. Puis dans Flash Builder, il y a aussi tout ce qui est. On peut surveiller ce qui passe sur le réseau. Il y a un profiler pour détecter des fuites mémoire éventuelles, faire des tests unitaires. Il y a un framework Flex PMD pour faire tester la qualité du code, faire
D'accord.
des tests fonctionnels, etc. etc.
Et du coup, est-ce que c'est le même projet Eclipse dans lequel j'ai un module,
En
vous avez
fait,
pas le...
là tu as le choix, en fait. Donc,
D'accord.
si tu veux débuter, tu peux par exemple aller sur le site de Christophe Conrad, on pourra te donner le lien également. Ensuite, tu as un test drive où tu vas pouvoir débuter tout de suite avec différents projets. Donc, les projets de base en général pour débuter te proposent de mixer un projet WTP avec une partie Flex. Donc, c'est bien pour découvrir, mais très vite, je conseille aux gens de réaliser leur propre projet Flex pur, éventuellement aussi leur librairie Flex ou leur module Flex. Et tout ça va être compilé et puis déployé sur le serveur, et vous aurez votre projet WTP et vos projets JAR, Java à côté. Et tout ça pourra être packagé de façon tout à fait satisfaisante à travers Eclipse ou à travers votre outil de build pour pouvoir faire vos tests.
Ouais, alors justement, on parlait d'Arnaud. Alors, j'ai une usine logicielle basée sur Maven. Ça m'a coûté les yeux de la tête, un bras et une ferme de CPU. Maintenant, est-ce que je peux intégrer Flex avec ça?
Oui. Alors, c'est tout à fait faisable aujourd'hui. Il y a différents plugins qui avaient été créés il y a 2 ans à peu près, qui étaient un peu en concurrence. Aujourd'hui, on voit un plugin pour Maven qui est le leader sur le marché, qui est maintenant hosté et réalisé par les gens de chez Sonatype, qui s'appelle Flex Mojo. Et donc, c'est une extension au plugin Maven de base pour Java qui va permettre de compiler ton code Flex. Pour en faire des librairies, des modules ou des applications.
Il est fort, il est payant ou
Oui.
il est
Non, il est gratuit, il est gratuit. Il
gratuit.
est fait par Sonatype. Il est donc disponible sous licence libre business friendly, je ne pourrais plus dire laquelle,
D'accord.
notre Apache. Et donc, il vient en fait dans l'écosystème Maven de façon assez conviviale, assez facile. On y retrouve un peu les mêmes principes qu'en Java avec les phases de test. Donc, on va pouvoir appeler Flex Unit dans ces tests unitaires de Maven. On va pouvoir appeler Flex PMD pour faire la contrôle qualité. On va pouvoir packager ça en Swift pour faire une application, en Swift pour faire une librairie, en RSL pour faire un runtime shared library, un peu comme on pourrait faire un genre en SGI. Un peu comme ça. Et on va pouvoir aussi l'intégrer à l'usine logicielle, donc mettre son build dans son Hudson.
Ouais, je peux
Également.
faire lancer mes tests unitaires Hudson, pourvu qu'il y ait
Ouais.
une VM flash en fait, c'est ça,
Tout à fait.
j'imagine,
Donc
comme
après,
ça.
on peut le
Ok.
faire en headless ou pas.
Ouais.
On a le choix aussi. Et on peut même aller plus loin. Et là-dessus, donc on a un de nos collègues ici qui est basé dans nos locaux aussi, donc qui est à l'origine de FlexPMD. Xavier Nietti, qui travaille beaucoup avec Olivier de chez Sonar. Et donc, Sonar, maintenant aussi, dans ses dashboards, propose donc de pouvoir voir la dette technique et les différents indicateurs qui sont très appréciés des architectes et des product owners que tu trouves dans Sonar.
D'accord.
Donc, ça aussi, ça reste open source si tu restes dans un environnement pure Flex. Si tu veux agréger ça dans un environnement Java, et Flex Sonar propose un plugin commercial qui est très intéressant aussi.
D'accord. Et on a parlé des designers et de leur importance. Et alors justement, comment est-ce que j'interagis avec mes designers au niveau de... Parce que moi, j'ai mon IDE. Alors j'imagine que assez rapidement, je vais probablement préférer le MXML pour... décrire la structure de mes interfaces utilisateurs. C'est avec ça que j'interagis. Comment je fais?
Alors, de toute façon, c'est toujours difficile de demander du code à un designer. Donc, on a un outil qui fait partie de la gamme, qui s'appelle Flash Catalyst, qui va faire le pont entre ces outils de design comme Photoshop, Illustrator
Ouais.
et Flex. Donc, il importe, en fait, il fait ses écrans, par exemple, où il design un composant dans Photoshop, il l'importe dans Flash Catalyst et il dit, bon, bah, par exemple, ce rectangle ici avec ce texte, c'est un champ texte. Cette forme-là avec le label, c'est en fait un bouton. Donc il va rendre interactif son design. Et en fond, ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est déjà en train de générer le code Flex et il va pouvoir l'envoyer au développeur. Donc le développeur, après, il va rajouter toute la logique applicative, la connexion aux données, etc. Et à tout moment, il va pouvoir dire, j'ai envie de renvoyer ce composant pour qu'il soit reskinné, redesigné ou affiné par le designer. Donc là, tout le workflow, tout le cycle d'échange de fichiers et de collaboration entre le designer et le développeur est géré par la plateforme.
Mais c'est quoi? C'est un serveur et du coup vous échangez via un email qui me dit voilà le nouveau fichier ou ça pousse
Non.
sur Git ou
Là,
SVN ou...
pour l'instant, on a juste les outils. Donc, après, en effet, ce que font les clients, c'est qu'ils s'organisent avec SVN pour faire du partage, check-in, check-out sur les fichiers, etc. Mais ce n'est pas fourni par Adobe.
D'accord.
Ils se basent sur leur infrastructure. Et
D'accord.
si il n'y a pas de designer dans l'équipe, on
C'est le
fournit quand
drame.
même ce qui arrive, hein, mais on fournit quand même des thèmes en fait. Donc on peut démarrer, je dirais, le développement de son application Flex un peu avec le thème par défaut qui est très gris. Hein.
Un peu à la VB.
Voilà. Et hop, on charge un thème qui automatiquement va contenir des skins, des CSS et qui va donner un look précis à l'application.
Donc là aussi, j'invite les gens à aller voir un peu ce qui se passe dans la communauté. Il y a beaucoup de choses
Ils sont partagés.
sont partagées par les designers et les flasheurs
D'accord.
sur ce thème-là.
Tiens, il y a un monsieur, alors c'est Akram, qui me dit, alors il est fan d'ActionScript, mais il aimerait des améliorations. Il demande, est-ce qu'il y aura une nouvelle version d'ActionScript? Il dit, je rêve d'un type booléen, natif, j'imagine, et des génériques et d'un compilateur qui soit encore plus strict pour éviter, j'imagine, des erreurs au runtime.
Ouais, alors ça va arriver très vite et il n'y aura pas besoin d'une nouvelle version d'ActionScript. C'est-à-dire que ActionScript 3, au début, on l'avait fait pour respecter une norme, qui est l'ECMAScript 2.6.2, qui était censée être la nouvelle norme de JavaScript, mais le consortium a décidé de ne pas faire évoluer le JavaScript. Il trouvait ça, je sais pas, trop compliqué de faire du fortement typé, etc. Donc nous, on était un peu. C'est pour ça, en fait, qu'on s'était aussi un peu limité. par rapport au générique, à l'overload. Maintenant qu'on n'a plus cette limitation, vu que le consortium ne suit pas, tout ce qui est cité va arriver très
Alors,
vite,
le
voire
boulard, par
plus,
contre,
quoi.
il y est
Le
depuis longtemps.
boulier, ça, depuis le premier jour, mais
Ah,
on
bah, je
en
sais
verra.
pas.
Mais par contre, ce qu'il cite après est tout à fait justifié.
D'accord.
Après, on peut faire pas mal de choses déjà
Ouais,
avec
pardon.
ActionScript. Il y a tout un monde à découvrir à travers
Découvrir à
les
travers les mondes.
métadonnées, les frameworks Parsley ou Kangan 3 qui poussent très loin les concepts, qui permettent d'être très productifs hein, sur le code
Ouais, ça c'est
ActionScript 3.
important, hein. Faut voir ActionScript c'est quand même beaucoup plus proche que Java de Java que de JavaScript, quoi. Les développeurs qui se mettent, enfin un développeur Java,
C'est quasi immédiat, il n'y a pas besoin vraiment de formation. C'est
ça va
juste, en
très
fait, je
vite.
dirais qu'un développeur Java qui a fait du swing aura aucune difficulté à se mettre à Flex. Si tu comprends les principes de l'observer et des
Les
programmations
événements.
événementielles, tout de suite, tu t'y fais, quoi.
D'accord. Et ce sera ma dernière grande question, enfin grand thème. L'interface utilisateur et Java, c'est vrai que ça n'a pas été toujours le grand amour, spécialement au niveau du web. On voit que malgré 10-15 ans de techno, on est toujours à inventer le nouveau framework web qui ira bien. Est-ce que vous pouvez... Enfin, si vous avez des opinions, est-ce que vous pouvez donner des opinions? Là, je vais lister quelques frameworks et puis dire en quoi bah, un est mieux que l'autre ou par exemple Flex est plus utile dans ce cas-là ou voilà. Enfin, donnez votre opinion là-dessus. Alors, j'avais listé JSF, donc un modèle de composants où les composants sont créés. Alors, soit on les achète par enfin Rich Faces ou des champs. Enfin, pas achetés virtuellement, mais Rich Faces ou d'autres librairies comme ça. Et puis après, on les utilise dans nos applications en modèle composant. Wicket, qui est un modèle composant, mais encore plus orienté Java. Donc, on a moins de templates. On se focalise. On a un template HTML, XHTML, et puis après. On fait la correspondance en Java assez rapidement. JWT qui est une approche où, entre guillemets, on développe du swing et puis ça fait une page web. J'exagère, hein, mais. Ou alors carrément des gens, je pensais à Play Framework justement, où l'interface utilisateur, autant avoir un moteur de template simple et puis après on met du jQuery et puis on fait les appels en REST et finalement on développe en HTML pur. Et puis évidemment il y a Flex.
D'accord. Bah, je vais débuter, moi. Après,
Vas-y.
Michael donnera son avis. Alors, moi, j'ai quitté un peu les frameworks de présentation Java il y a 3 ans, donc je ne suis pas au fait, hein, à l'état de l'art. JSF, moi, j'en ai un très mauvais souvenir, hein, mais c'était avant 2007, donc je ne sais pas si ça a évolué depuis.
Ouais, il y a
C'est
une
quelque chose
V2, mais
que.
c'est vrai que la V1, les V1.1 étaient horribles.
Voilà. Donc, c'est quelque chose que je ne pourrais pas conseiller. Wicket, malheureusement, je ne l'ai pas essayé, donc je ne pourrais pas en dire grand-chose non plus. JWT, par contre, j'ai un peu plus joué avec. C'est quelque chose qui est très intéressant. Mais moi qui me faisais peur au début, je me dis, ouais, tout ce code généré, comment est-ce que c'est possible que ça marche aussi bien sur autant de navigateurs? Il faut supporter tout ce code JavaScript généré. Mais apparemment, ça marche, hein, ce que j'en ai vu et ce que j'en ai compris. Après, moi, j'en citerai un dernier que tu n'as pas cité, c'est le swing.
Ouais.
Moi, si j'ai un regret dans le monde Java, c'est que swing n'a pas réussi à percer, quoi, l'applet, etc. Enfin, il y a un peu plus d'approche design de la part de Sun aurait peut-être fait qu'aujourd'hui, à Flex, on n'en parle pas, ou qu'on
Ça,
fasse
les applettes.
tous du swing, je ne sais pas. et là-dessus, bah, Flash et Flex ont vraiment apporté des choses, hein, que Swing n'avait pas apporté. Donc c'est pour ça que moi
En parlant de
j'aime
ça, il y
beaucoup
aura
Swing. Ouais.
JavaFX2 qui était votre ex-concurrent qui a disparu un peu en profil, mais ils ont enlevé ils sont focalisés sur le framework d'interface utilisateur. Voilà, qui a entre guillemets, certains l'appellent un peu le Swing 2, où il y aura des choses améliorées là-dessus.
Ah oui, j'avais fixé clairement. J'ai assisté à beaucoup de présentations par Sun puis par Oracle de JavaFX et j'avais l'impression que j'utilisais mes slides. Hein. Donc c'est exactement la même stratégie, la même approche. Après, il y a un vrai retard par contre, ils sont vraiment partis bien après. Et même au niveau des composants, il manque vraiment des choses essentielles à une RIA. Après, je dirais la grande différence, c'est peut-être aussi. La liberté qu'apporte Flex et l'ActionScript 3, le fait que les composants soient tous open source, qu'on puisse les étendre. C'est-à-dire qu'on n'est jamais freiné si on a envie de créer un composant. Flex est très connu pour tout ce qui est visualisation de données, composants de type charting. Et c'est peut-être là, je dirais, que très souvent, ça fait vite la différence. C'est-à-dire qu'un framework comme JWT, qui va générer au final que de l'ActionScript, ou même JavaScript, ou bien jQuery, où pareil, en fait, on se base un peu sur les animations qui sont proposées, mais dès qu'un développeur Java souhaite aller changer du JavaScript, bon, bah, c'est très rapidement, c'est un coup à se tirer les cheveux, quoi. Donc, l'ActionScript, je dirais que ça peut s'étendre à l'infini, même au niveau de l'expérience visuelle, tout en gardant quand même un langage qui a énormément de rigueur, enfin, qui est très proche de Java, quoi.
Quelque part, là, c'est moins traumatisant d'écrire de l'ActionScript slash flex que d'avoir un développeur Java à bouger à du JavaScript, en fait, c'est ça que tu es en train de dire.
Tout à fait, je pense que c'est l'expertise est un peu la même.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé au début de l'entretien, mais il y a des petits outils, par exemple comme Tour de Flex, qui est une application R que j'invite tous les développeurs Java à les télécharger, à les voir. Et vous verrez donc tous les composants, les centaines de composants qui existent dans le SDK Flex, comment est-ce qu'ils marchent, comment est-ce qu'on les code, comment est-ce qu'on les agrège pour faire des applications riches et différents widgets en quelques lignes de code.
D'accord. Conclusion, c'est quoi le futur de Flex? Donc on a parlé des, ça va arriver très bientôt là, donc soit un petit résumé, soit je sais pas, des idées pour le futur que vous avez.
Bah, je dirais que ça dépend. Enfin, Flex, on a toujours suivi un peu le futur aussi des applications d'entreprise et les tendances un peu de l'industrie. Donc en effet, la première tendance, c'est clairement le multi-écran. Donc là, ça va arriver dès
printemps. Interesting. Okay.
Donc, les applis Flex sur mobile, sur tablette, mais aussi sur télé. Donc un acteur comme Samsung, par exemple, qui est clairement devenu le leader sur la télé, va directement embarquer le Flash Player et le Runtime R. Donc vous pouvez faire une appli Flex et la déployer sur la télé. Donc ça va être assez intéressant.
Je ne sais pas si on a parlé du Runtime R dans cette
interview. Ouais, qui est un peu la façon d'exécuter du Flash en dehors du navigateur, on va dire, comme si c'était une appli, comme si on avait un logiciel sous les yeux.
Et ça marche, ça? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un... Bon, tout le monde avait réimplémenté son Twitter en R, son client Twitter en R.
Ouais, le Twitter. Ouais,
voilà. Ça, non, mais il y en avait d'autres.
Ouais. Twitter, ça, c'est sûr.
Et puis après, en tout cas, dans la presse, dans les blogs, on n'en parlait plus en fait. Mais c'est utilisé ou...
C'est utilisé en entreprise pour surtout les utilisateurs qui sont momentanément déconnectés et qui ont, donc, par exemple, Salesforce, le CRM dans le cloud, utilise R. Pour les commerciaux qui récupèrent toutes leurs opportunités le matin et puis dans le train ils les mettent à jour, etc. Et ça resynchronise après.
J'ai commencé à faire des applications aussi sur Android, 4.5 qui est disponible sur le labs.adobe.com. Donc ça c'est aussi parti.
R en fait ça va être exécuté du Flex, une appli Flex en dehors du navigateur. Donc dans le monde du mobile ou des tablettes, c'est le fait de faire une application native.
Voilà. D'accord.
Donc c'est là où il y a un gros succès. Donc ça, clairement, multi-écran, grosse tendance pour Flex dès cette année. Après, il y a une deuxième tendance, c'est le fait qu'on adresse quand même... on trouve quand même que côté client, ça se fragmente de plus en plus au niveau des technologies, même des OS. Et on souhaite quand même avoir la même expérience partout. Donc, côté back-end et côté Java, ça a aussi des impacts.
Voilà, donc côté back-end, on a envie aussi de servir ces données à ces différents clients de façon, on va dire, cohérente et équivalente. Donc, la plomberie dont on parlait tout à l'heure, donc le Lifecycle Data Service, permet donc de fournir ces données à travers l'AMF ou le RTMP vers les clients. Et donc, dans la roadmap de ce produit-là, on vise à fournir ces services de messaging, de remoting, de data management à différentes sortes de clients, différentes natures. Non seulement le Flash Player, mais aussi le Java. Donc on va pouvoir avoir des clients en Java, typiquement des applets, ou alors des clients Java sur Android, qui pourront consommer donc, des flux AMF également. On vise aussi des clients HTML5 en JavaScript.
Les WebSockets.
Donc là, il y a quelques petites expérimentations qui ont déjà été faites par James Ward sur son blog là-dessus.
Objectif C.
Objectif C. On vise aussi à pouvoir intégrer différents backends comme .NET avec la même plomberie, donc on va dire la même façade de plomberie. Et on vise aussi à pouvoir se connecter à des systèmes, on va dire, legacy, hein, particulièrement sexy en termes d'interface utilisateur, comme SAP.
D'accord.
Donc là aussi, on va arriver avec des outils qui permettront d'être plus rapides, plus agiles, pour fournir des interfaces flex au-dessus de backend. Flex ou autre.
La dernière tendance, juste peut-être, c'est tout ce qui est collaboration en temps réel. Enfin, on essaie toujours de réfléchir à ça va être quoi la nouvelle génération de RIA. Et ce qu'on sent quand même venir, et dans mon client intéressé, c'est comment est-ce que je rajoute dans mon application existante du chat, de la conversation vidéo, de la voix sur IP, du partage d'écran, etc., etc. Et donc pour ça, on a sorti en fait un service hosté, donc dans le cloud. Qui s'appelle Lifecycle Collaboration Service, et qui permet d'étendre son application Ajax ou Flex actuelle avec tous ces composants-là. C'est une grosse tendance, on pense qu'il va bien marcher cette année.
Voilà, là j'invite aussi les gens à aller voir ça. C'est en quelques lignes de code, vous faites une application collaborative, c'est assez impressionnant.
Merci messieurs.
Merci.
Merci à toi Emmanuel.
Merci, et puis ben, à la prochaine sur les ondes virtuelles. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.